With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Jacques Séguéla. En 1970, Jacques Séguéla écrit l'histoire de la publicité en cofondant avec Bernard Roux, Alain Cézac et Jean-Michel Goudard, RSCG, racheté 21 ans après par Havas. Publicitaire, entrepreneur, écrivain, Jacques est une légende vivante et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Cet épisode est unique, les 40 premières minutes sont disponibles pour la première fois en vidéo et l'intégralité en audio comme d'habitude sur toutes les plateformes. Dans ce podcast, il me raconte une petite partie de sa vie entre ses parents, son tour du monde en deux chevaux, ses rencontres, notamment avec Salvador Dali et Jacques Prévert, son amour pour la publicité et son amitié avec François Mitterrand. On évoque également dans une seconde partie les géants du numérique, les fake news, l'addiction au smartphone, le futur du numérique, avec son dernier livre, Le diable s'habille en GAFA. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec un homme humble, bienveillant et dont on a l'impression qu'il a vécu mille vies tant ses expériences sont nombreuses et passionnantes. Un grand merci à toi Jacques. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Séguéla, Jacques Séguéla. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui.
Et moi aussi.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On va commencer, il y aura deux parties dans ce podcast. Il y aura une première partie sur ta vie et une deuxième partie sur ton dernier bouquin, Le diable s'habille en GAFA. Donc on va commencer directement par la première partie. Donc Jacques, tu es né à Paris. Tes parents, que faisaient tes parents comme métier ?
Mes parents étaient étudiants en médecine. Mon père en radiologie, ma mère en médecine. Ils s'étaient connus à Montpellier, juste quelques mois plus tôt. Ils étaient très amoureux. Ils ont fait un enfant de l'amour, que je suis. Mais ça n'a pas plu à ma famille maternelle, enfin grand maternelle, qui trouvait que mon père n'était pas suffisamment titré et qui a interdit ma mère de voir mon père. Et donc, c'est passé ce qui devait se passer. Mon père a rapté ma mère avec beaucoup de romantisme, l'a amenée à Paris. Ils sont installés à Paris pour faire leurs études ensemble. Je suis né à ce moment-là. Mmh. Et je suis né à Paris quand il venait d'arriver. Et à l'âge de 3 ans, mon père a fini ses études de radiologie, ma mère a fini ses études de médecine. Ils sont allés s'installer à Perpignan, à l'opposé même de Paris. Et je suis arrivé avec mes 3 ans dans cette ville du Sud, qui fait que je suis un fils du Sud, bien avant d'être un fils de pub, et que j'ai eu la chance de vivre ces 20 premières années de ma vie. Au soleil, à la mer, en catalan, avec les plus jolies filles du monde. et avec des parents extraordinaires, mon père m'a amené chaque année, pêcher dans un pays du monde différent. Et on a fait comme ça 60 pays de pêche, depuis le fin fond de la Chine jusqu'en Afghanistan, en passant par le pôle Nord, la Chili, pas un seul continent qui nous ait échappé. Mon père était assez paterfamilias, avait peu de dialogue avec lui. C'était un temps où on ne parlait pas à table. On ne répondait que si on vous posait une question. Heureux temps, pour les parents en tout cas. Par contre, dans ces moments de pêche intense, c'est là où j'ai communiqué avec mon père. J'avais l'impression que nos deux fils de pêche se réunissaient comme ça sous l'eau, et que c'est comme une sorte de téléphone, et que d'un bout à l'autre de la rivière où l'on était, ou de l'étang où on était, en train de pêcher les saumons, ou des truites, il me donnait des leçons de vie à travers ces leçons de pêche.
Ok. Donc tu parles beaucoup aussi de l'influence qu'a eu ton père dans ton livre Fils de pub.
Oui.
Tu parles beaucoup de justement cette relation père-fils quand vous pêchiez dans les différents pays que vous visitiez.
Oui.
Donc un livre très intéressant. Ensuite, en termes niveau études, qu'est-ce que tu as fait comme études ?
Moi, j'ai été le plus mauvais étudiant de secondaire, collégien, je ne sais pas comment appeler ça. J'ai mis 8 fois à passer mes bacs, qui était d'ailleurs la limite. C'est-à-dire que si on n'avait pas réussi la 8e fois, on était interdit de fac. Et la vie s'arrêtait là, on passait directement à autre chose. Pourquoi ? Parce que quand j'ai eu 14 ans, je suis arrivé en troisième. Mon père a tenu à ce que je fasse mes études chez les révérends pères jésuites, comme lui avait fait ses études. Mais il n'y avait de collège de jésuites qu'à Montpellier. Montpellier, c'est à 200 km de Perpignan, mais à l'époque, les autoroutes n'existaient pas. En train, ça mettait 4 ou 5 heures. Le week-end n'existait pas, donc mon père travaillait le samedi, il avait sa clinique, il avait en plus l'hôpital, il était débordé. Donc j'ai été coupé de ma famille. Or, j'étais fils unique, j'étais l'enfant chéri. C'était une rupture terrible. Mes parents m'avaient fait sauter une classe qu'il ne faut jamais faire avec des élèves, en pensant que j'étais surdoué, je ne l'étais pas. Et donc j'étais le gringalet de la classe. J'ai très mal vécu ce moment-là. Je me suis révolté. On n'avait pas le droit de parler, par exemple, sur les rangs, on n'avait pas le droit de parler au dortoir. Moi, je ne supportais pas ça. J'avais l'impression que c'était prison break. J'étais enfermé, donc je ne pouvais pas m'empêcher de parler. J'avais un petit nasillon qui me chargeait des noises toujours. Il m'installait sur une règle de fer, comme ça, devant sa guérite. Et un jour, un soir, n'en pouvant plus, il était là en train de me narguer. Il se faisait cuire des œufs, il me montrait sa poêle. Là. Bon, il se retourne. Il était en short. Il y avait une fourchette qui était là sur la table. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une espèce de pulsion incroyable. J'ai planté ma fourchette dans ses fesses. Pas fait très mal pour ça, mais enfin, le geste était une inconvenance. Bon, donc il a failli me massacrer, mes coutures m'ont protégé, j'ai été viré évidemment dans la seconde, et je me suis retrouvé externe à Perpignan, libre à Perpignan. Et donc la première semaine, j'ai assisté aux cours, et la deuxième semaine, je suis allé au cinéma. Et puis le cinéma, c'était tellement mieux que les cours que je ne suis plus jamais retourné pendant ce trimestre-là. À l'école, donc j'ai raté complètement mes classiques, c'était l'année du bac, donc j'ai raté absolument mes trucs, et après j'ai mis un mal fou à rattraper le niveau, j'ai passé in extremis, et mon père, un peu désespéré, m'a dit: écoute, je pense que tu n'es pas fait pour les métiers intellectuels, mais il faut que tu restes dans la branche médicale, sois pharmacien, c'est un très beau métier, c'est un métier où toi, tu es en contact avec les gens, où tu seras en contact avec les gens, tu soignes les gens, tu fais partie de la grande chaîne de la médecine. Bon, je l'ai écouté. Je me suis retrouvé en pharmacie et j'ai adoré ce métier de pharmacien. Parce qu'on commençait par un stage de 12 mois. J'étais dans une pharmacie très populaire de Perpignan, le quartier un peu déshérité de Perpignan. J'ai découvert comme ça la vraie vie des gens, c'était allô, maman, bobo. Moi, j'étais le bobo, je faisais les petites choses, bien entendu, mais j'écoutais les gens, je les soignais quand c'était très simple. Bon. Et puis, c'est l'époque où les pharmaciens faisaient eux-mêmes leurs médicaments. Et moi, j'étais passionné par ça. J'avais un préparateur qui était un grand préparateur et qui m'apprenait à préparer les médicaments, à doser les trucs. Si bien que quand je suis arrivé à mon examen, j'ai été major. Donc je suis passé de cancre à major. Mes parents n'y ont pas cru. Ouais. Ils sont quand même venus voir le proviseur. Ils ont dit: écoutez, mon fils a dû tricher, c'est pas possible. Ce garçon qui a mis 8 fois à passer ses bacs ne peut pas. Et je ne me dis pas du tout. Écoutez, tous les médecins, tous les professeurs nous ont dit qu'il était passionné par ça, etc. Donc pour me remercier, mon père m'a offert une de chevaux. Ma première de chevaux, j'avais 20 ans. Je suis parti faire le premier raid, un des tout premiers raids en deux chevaux de Perpignan à Carachi, avec Jean-Claude Baudot et un autre garçon qui s'appelait Dépéré. Ça allait très loin, on s'est fâché. C'est jamais bon de partir à trois. Donc Dépéré est rentré. Et nous, on a continué le voyage avec Jean-Claude tout seul. Et à la fin de ce voyage, on s'est dit: mais si on est capable, sans moyens, sans même savoir réparer une voiture, d'aller de Perpignan à Carachi, pourquoi on ne fait pas le tour de l'autre côté? Et on décide de faire le premier tour du monde d'une voiture en deux chevaux. On a préparé ça pendant nos études. Lui de droit, moi de pharmacie. Lui est parti faire une thèse en droit sur les grandes routes transcontinentales. Moi, je suis parti faire ma thèse de pharmacie sur les marchés des plantes médicinales à travers le monde. Au retour, on a écrit le récit de ce voyage, La Terre,
La Terre en
rond, qui m'a propulsé à Paris Match. Mm. De Paris Match, je suis parti ensuite faire mon service militaire, où j'ai retrouvé Philippe Labro, dans la Chambrée, le grand écrivain, où j'ai retrouvé Jules Jacquin, le grand photographe, et où j'ai retrouvé Francis Weber, le grand cinéaste. Et donc c'est là que j'ai appris définitivement mon métier de journaliste. Et j'étais d'ailleurs le rédacteur en chef provisoire du journal militaire qui s'appelait TAM, avec Depardon, où j'ai connu vraiment beaucoup des talents qui vont naître après ce moment-là. J'ai créé mon propre journal qui s'appelait Via, avec Baudot, qui nous a ruinés, qu'on a créé avec les droits d'auteur du livre. Le livre avait tiré à 150 000 exemplaires, il était traduit en 11 langues, donc c'était pour nous une cagnotte incroyable qu'on a engloutie dans ce journal. Évidemment, on n'avait pas les moyens de résister, et c'est là où j'ai découvert Lazareff, qui nous a aidés, et avec lequel j'ai fait 2 ans de bonheur, d'apprentissage de mon métier, parce qu'il n'y a pas tellement de différence entre le journalisme et la publicité. Mais en tout cas, mon métier du poids des mots que m'a enseigné Lazareff, et du choc des images que m'a enseigné Roger Théron, qui était mon patron à Paris Match. Et c'est la synthèse des deux qui m'ont fait arriver dans la publicité, parce que lorsque j'ai eu 30 ans, Jacques Godet, qui était le patron de l'équipe, et Pierre Lazareff, le patron de François, tous les deux m'ont invité à déjeuner, et ils m'ont dit: qu'est-ce que tu veux faire dans le groupe? Maintenant tu es rédacteur en chef, comment tu veux diriger? Mais moi, vous ne m'avez pas compris, moi je veux devenir votre concurrent, je veux créer mon propre journal. Et Lazareff m'a dit: mais tu es fou, il ne faut pas être concurrent dans la presse va mourir, François va mourir. Et il m'a dit ça il y a 50 ans. C'est incroyable qu'il avait déjà prévu tout le drame qui allait se passer, etc. Il m'a dit: un mec comme toi, ça doit aller dans les métiers neufs, va dans la publicité. Et j'ai eu le bonheur de l'écouter, et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui.
Donc là, on est allé très vite, mais je voudrais revenir sur le tour du monde avec Jean-Claude Baudot. Quelles ont été les étapes marquantes de ce tour du monde? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce tour du monde?
Beaucoup de choses. D'abord que faire le tour du monde, c'est de faire le tour de soi-même. Surtout quand on est deux, ou on est enfermé dans une boîte de sardines. On a passé 2 ans en couchant chaque soir dans la nature. On n'a jamais pris un hôtel, on n'avait pas le moyen d'aller au restaurant. Donc en moment de survie, qui est le moment où on a été finalement le plus riche du monde, parce que tout le monde nous invitait, tout était à nous, le monde était à nous, on découvrait le monde. Bon. Ensuite, on découvre très vite que on est toujours le sauvage de quelqu'un. On croit que quand on est au Sahara, c'est nous les maîtres du monde qui traversons le Sahara, pas du tout. Tu ne traverses pas le Sahara si tu n'as pas un Touareg sur le bord de la route qui dit: le chemin, c'est pas là, le chemin, c'est là. Et si tu es un peu malin, tu l'invites à s'asseoir dans la voiture et tu lui dis: amène-moi à l'autre bout du Sahara. Parce que traverser le Sahara, c'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, où il n'y avait pas de GPS, où il n'y avait aucun de point militaire qui pouvait venir te rechercher. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas d'assistante. Quand tu regardes aujourd'hui les raids, etc., bon, ils ne peuvent pas se perdre. Nous, tu avais un vent de sable, tu ne traversais pas le désert. Donc, ça a été ma troisième découverte des déserts du monde. On a traversé les 6 déserts les plus grands du monde. Ce sont des moments d'isolement total, où tu es quand même toujours en mode survie, parce que tu sais que si un blanc de sable, il faut t'arrêter, il faut faire très attention, il ne faut jamais perdre la... Il n'y a pas de route, ce sont des pistes, il ne faut jamais perdre la piste des yeux. À l'époque, dans le Sahara, il y avait des rails de chemin de fer qui étaient plantés comme ça, tous les 10 km. Mais si jamais tu perdais dans ta ligne de mire de ta jumelle le rail, mais tu perdais la piste, tu pouvais ne jamais la retrouver. Et je me souviens d'ailleurs que quand on est arrivé dans le désert d'Atacama au Chili, un soir c'est moi qui conduisais, j'ai mal rebouché le bouchon de carter d'huile, et à 2h du matin, bruit d'enfer, plus d'huile dans le carter. Et comme un imbécile, je n'avais pas non plus rempli la réserve d'huile, plus une goutte d'huile, donc impossible de faire 1 mètre de plus. Alors on s'est arrêté, on était en pleine nuit, on a dormi, il faisait très froid, on était à 4500 mètres. Et puis le lendemain, il ne s'est rien passé. On a repassé une deuxième nuit où commencé à se dire, est-ce qu'on part à pied, comment on s'organise. Et puis est arrivé un Chilien. Dans tous les déserts du monde, il y a des gens qui marchent à pied. Bon, qui marchaient à pied, qui avaient une grande besace, comme ça. On prenait le petit déjeuner, donc on l'a invité à partager notre petit déjeuner. On avait encore un peu de thé, des biscuits. Et puis on lui a expliqué notre panne, et il s'est mis à rire. Et il a ouvert sa besace, et il a sorti des bananes. Et il a mis des bananes dans le carter. Puis il est allé chercher un caillou avec un morceau de chiffon, et il a fermé le carter avec le caillou du bouchon. Il nous a dit, maintenant vous pouvez démarrer. Et on l'a chargé dans la voiture, et on a fait 200 km à la banane. Bon, et sans lui, je ne sais pas comment on serait sorti du désert d'Akatama.
Ok, incroyable. Il y a eu aussi un petit épisode au Japon, avec vous étiez mannequin.
Nous, il fallait bien qu'on gagne notre vie. Hein, on avait une petite. Mon père, nos parents avaient accepté de nous donner notre pension d'étudiant. Donc c'était quand même le gros de l'affaire. Mais l'essence coûtait pas ce qu'elle coûte aujourd'hui. Mais enfin, il fallait trouver de l'essence chaque jour. Il fallait aussi faire un déjeuner par jour, le reste du temps manger des sandwichs, des fruits, etc. On se débrouillait, on était invité, mais il y avait quand même les frais, et puis il y avait des frais de douane, il y avait plein de frais qui sont en soi. Donc il fallait qu'on ait un boulot. Moi, j'avais choisi d'être serreur de chaussures, donc j'avais une petite boîte à chaussures, et où qu'on aille dans le monde, même dans les pays les plus pauvres, il y a toujours des riches. D'ailleurs, plus les gens sont pauvres, plus il y a de grands riches. Donc moi, je me mettais dans les hôtels de luxe, même quand on traversait les déserts, je mettais la voiture, je mettais ma petite boîte de chaussures. Les gens rigolaient quand ils me voyaient avec ma voiture. Ils me disaient, mais qu'est-ce que j'ai fait le tour du monde. Donc je faisais vaguement un cirage bâclé de leurs chaussures. Ils me donnaient des pourboires, ou m'invitaient à déjeuner, ou ils m'invitaient même parfois à dîner chez eux, etc. Donc c'était un moyen de communication. Mais quand on est arrivé au Japon, ça n'existait pas. D'abord, on n'avait pas le droit au Japon de se mettre sur la rue et de cirer des chaussures. C'était un pays qui était déjà très strict. Et puis, on ne parlait pas la langue. Donc, on ne comprenait rien. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc, c'était... Et je me suis dit, mais finalement, il faut trouver un métier sans parole. Et pourquoi on ne serait pas mannequin? C'était la mode à l'époque dans les grands magasins. Il y avait des mannequins dans les vitrines qui faisaient des automates comme ça. Eux ne connaissaient pas ça. Donc, on est allé trouver le grand magasin, les grands Galeries Lafayette, de Tokyo, qui s'appelle Seibu. On a expliqué ça, le patron parlait anglais, donc on a pu parler avec eux. On dit, mais nous, on aimerait faire ça, on mettrait là deux chevaux devant la vitrine, et nous, on ferait, habillé en explorateur, on ferait des mannequins derrière. Donc il a accepté, je vous donne une chance pendant 2 heures. On a fait ça pendant 2 heures, il y a eu un attroupement complètement fou. Les Japonais n'avaient jamais vu de deux chevaux, encore moins de mannequins vivants. Et puis connaissaient très mal les Français. On se demandait même d'où on venait, tu vois. Je te parle d'il y a 65 ans. Bon. Ça a eu un succès fou. Et en 2 jours, on a réussi à tenir 1 mois au Japon, parce qu'on n'a pas pu débarquer la voiture au Japon. Les douaniers l'ont bloqué, mais on a fait le tour du Japon en train. Et c'était un voyage fondamental. On est allé à Kyoto, qui est la des plus belles villes du monde, avec le temple de Ryangi. On est allé à Hiroshima, c'est un choc terrible. Ouais. Le cœur d'Hiroshima est resté ce qu'il était après la bombe, un gigantesque cratère, comme ça, où plus rien ne pousse. C'était une douleur absolue. Et puis, ce pays, qui est un pays vraiment au-dessus des autres, qui a su garder son âme, son ADN, et tellement de modernité calquée là-dessus. C'était ça, les leçons d'histoire et de géographie d'histoire, parce que la plus première diversité, c'est le tour du monde. Mmh. Qui donne après l'envie, d'ailleurs, d'être citoyen du monde, et pas simplement citoyen de son pays, et qui, moi, m'a beaucoup permis à exporter la publicité, à créer des agences dans tous les pays du monde. On a 600 agences dans le monde aujourd'hui, chez Havas. Et je pars samedi à Moscou pour aller visiter notre agence de Moscou. Et je suis nommé membre, d'ailleurs, docteur honoris causa de l'Université de Moscou, parce que j'ai une chaire à Moscou, okay. où j'enseigne, et puis les étudiants viennent me voir à Paris ensuite. La communication politique aux jeunes russes, mmh. qui se destinent à la communication ou à la publicité.
Ok, très bien. Donc à la suite de ce tour du monde, tu publies un livre qui s'appelait La Terre en rond. Donc il a été vendu à plus de 150 000 exemplaires, oui. à sa sortie. Ensuite, tu deviens journaliste, comme tu l'avais expliqué, donc pour reporter pour Paris Match, oui. et ensuite rédac-chef de François. Et ensuite, tu te lances dans la publicité. donc dans une agence qui s'appelait
Delpi,
c'est ça. Est-ce que c'est là que tu rencontres ton premier associé Bernard Roux
ou c'est après? Non, je rencontrerai après. Là, je rencontre Bob Delpire, qui va être mon troisième professeur. Mon premier professeur, donc, c'était le poids des mots chez Lazareff. Mon deuxième, c'était Roger Théron avec le choc des images. Mais il restait encore à assembler les mots et les images, c'est-à-dire à créer la mise en scène et la mise en image la publicité, c'est ça, de l'ensemble. Et Delpire, qui était un très grand plasticien, qui était un maître de la photo, un grand graphiste. Il n'était pas un publicitaire passionné, mais il était passionné d'édition. Il a fait les plus belles éditions pour Citroën, les plus belles éditions du monde. Jamais aucune marque n'a égalé la qualité de Citroën dans ces années-là. C'était les années 70, où les plus grands photographes du monde venaient faire des brochures, etc. C'est un moment passionnant de l'histoire graphique. De la publicité c'est lui qui m'a finalement montré comment tout ça se mettait ensemble. Mais moi je voulais voler de mes propres ailes, j'ai toujours la même volonté de créer ma boîte. Et donc je suis allé le voir un jour, je lui ai dit écoute, moi je te quitte parce que tu m'as tout appris, mais je veux créer une agence. Il m'a dit mais toi je te vois venir, hein. tu vas essayer de me prendre le budget Citroën, comme évidemment moi j'étais très, très proche des gens qui dirigeaient la publicité Citroën de l'époque, de Jacques Volkensinger en particulier, qui était l'homme de la presse, de Puech, qui était l'homme de la publicité. Mais je n'y mets pas du tout. Tu sais, moi, j'ai trop de références et trop de valeurs pour les gens qui m'ont précédé, qui m'ont appris des choses, pour mes maîtres, pour mes parents, pour mes ancêtres, pour tous ceux qui m'ont appris quelque chose que je ne te trahirai jamais. Et c'est ce qui va faire notre réussite. Alors je le quitte et c'est là que je rencontre Bernard Roux dans une petite agence qui était en train de se créer, qui s'appelait Axe Publicité, où moi je suis nommé une matinée par semaine directeur de création de l'agence. C'est pour te dire qu'il n'y avait pas énormément de boulot. Bernard Roux, lui, était nommé 2 jours par semaine directeur commercial. Et la chance comme ça commence qu'à un cas et la fusion se fait tout de suite. Et moi, j'apporte une sorte de nouveauté parce que j'apporte les règles de la presse, un métier qu'il ne connaissait, qui n'avait pas de formation vraiment, qui copiait vaguement les Américains sans bien comprendre ce qu'était le marketing, qui dénigrait la presse, etc., parce qu'il y a toujours eu ce frottement entre la presse et la publicité. Et donc j'ai apporté le sens de l'événement, de la création, de la différence, de ce qui n'avait jamais été fait, de la publicité spectacle. Et tout ça a fonctionné. Donc très vite, on a gagné beaucoup de nouveaux budgets. Est arrivé 68. Bernard, lui, est allé défiler sur les Champs-Élysées. Moi, je suis allé jeter quelques pavés à la tête des flics. Chacun était dans son rôle. Et à la fin de ça, on est allé trouver nos deux patrons, les frères d'Abnard, et on leur a dit, mais vous avez bien compris le message de 68. Nous, il faut que vous nous donniez 20% à chacun si vous voulez qu'on continue à faire marcher la maison. Et les deux frères se sont regardés. On dit, mais écoutez, très bien, passez chez le comptable. Votre chèque est prêt. Et donc, on s'est retrouvés dans le bistrot qui était en bas de l'agence. Et Bernard m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais on fait Rousseguet là. C'est le moment, il faut y aller. Et on a démarré sans aucun budget. Avec notre prime de départ, on a fait une annonce dans le Figaro. Une page dans le Figaro, une page dans le Monde. Tout notre argent y est passé. Et en plus, on nous avait fait un prix. Où on disait, dans 10 ans, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut venir nous voir. Parce que dans 10 ans, on sera venu comme ce qu'est votre agence. Repu, orgueilleux et sans aucune envie de vous pousser vers la difficulté de la création en vous servant simplement des idées recuites. Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier budget qui était les moteurs Mercury, pour laquelle j'ai fait la première annonce à scandale, puisque comme mannequin des moteurs Mercury, j'avais choisi Pompidou. Je me souviens que quand j'étais à Match, j'avais fait une photo de lui quand il était sur un petit bateau à Saint-Tropez. Je me suis dit, mais si jamais le moteur était un Mercury, ce serait formidable. Je me suis procuré la photo, c'était un moteur Mercury. Et donc, l'annonce a fait scandale parce que Georges Pompidou a interdit l'Express de sortie. Et donc ça a été un véritable scandale. Moi, j'ai été convoqué par Jean-Jacques Savant-Schreiber et Françoise Giroud, qui étaient le président et la directrice générale du journal, qui m'ont dit « Trouvez-nous une idée, maintenant, on nous a mis dans la merde. » Mais l'idée, elle est simple, on va arracher les pages. Et donc, ils m'ont emmené dans un hangar où il y avait 400 000 Express. Et moi, j'ai battu le rappel de tous les copains et de toutes les copines. Pendant 48 heures, on a arraché les pages. Mais en même temps, j'ai fait venir des télévisions pour dire « Regardez quand même ce qui se passe. » Donc, c'était le soir au journal de 20 heures, donc on est devenu... pour notre premier jour et pour notre première annonce, on a eu notre premier moment de célébrité. La célébrité est toujours passagère. Mais ça nous a fait rentrer par la grande porte dans la publicité.
Ok. Y a une campagne que tu fais avec l'image de Salvador Dali. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec...
Oui, on a... dans un premier temps, on ne connaissait pas la publicité. Moi, j'ai découvert le mot marketing 2 ans après d'avoir été dans la publicité. C'est-à-dire qu'on en était loin. Nous, la publicité, c'était de la réclame. Donc, on est allé vers le marché qui bougeait le plus à l'époque, c'était le marché immobilier. Parce que l'immobilier était en pleine bourre à ce moment-là. Il y avait énormément de ventes de logements neufs. Et les 4 ou 5 grands promoteurs mettaient en compétition 2 ou 3 agences. L'agence, ça suffisait de faire une page du Figaro ou une page du Monde. Si l'on avait des résultats de vente après cette page, on était reconduit la semaine d'après. Sinon, on était viré, c'était une autre agence qui venait avec une autre idée. Et donc, nous, ça plaisait beaucoup parce qu'on gagnait chaque fois d'ailleurs, on gagnait pratiquement chaque fois. Et on était devenus les rois de la publicité immobilière en 1 ou 2 ans. Et un jour, on est confronté à Publicis. Pour la première fois, une énorme agence se met dans ce petit marché. On dit, qu'est-ce qu'ils viennent nous ennuyer ? Ce petit marché qui est à nous, alors qu'eux, ils ont les grands budgets, etc. Bon. Et je me dis, il faut trouver une idée monstrueuse. Et c'était le lancement d'un building qui est à côté de Beaugrenelle, d'Andro et Para. C'est un building d'acier, de verre et de béton qui est assez beau comme ça. Et qui, moi, je ne sais pas pourquoi, me faisait penser à un totem, comme ça. Bon. Et je me dis, il faut que je trouve une idée autour de ça. Je me dis, mais totem Dali. Et à l'époque, les publicités immobilières, c'était de faire un dessin de l'immeuble que l'on vendait. Alors, soit on faisait des fausses photos, soit on faisait les dessins par ordinateur n'existaient pas. Soit on demandait à des graphistes de faire la reproduction la plus proche possible de ce que les gens allaient acheter. Et je dis, mais si je demandais à Dali de faire ça. Je me souviens, Publicis passe devant nous il est applaudi à la fin. J'ai dit, bon, donc je me dégonfle pas. J'ai dit, écoutez, moi j'ai une idée. Votre tour est une œuvre d'art, elle ressemble à un totem. En plus, elle est très particulière, donc elle a quelque chose de poétique. J'ai demandé à Salvador Dali de faire votre illustration. Alors tout le monde reste bouche bée, dit, mais Salvador Dali, le vrai? Il me dit, oui, Salvador Dali, moi je suis de Perpignan, je le connais. Il a accepté. Les gens me disent, écoute, c'est formidable, on ne veut même plus entendre parler de Publicis. Parce que d'habitude, il y avait un deuxième tour. Il n'y a pas de deuxième tour, vous avez gagné. Et je me retourne, je ne connaissais pas Salvador Dali. Par bonheur, j'appelle à Perpignan 2 ou 3 copains. Il y en avait un qui connaissait Salvador Dali, qui me dit, écoute, je peux t'obtenir un rendez-vous avec lui, mais il est au San Regis à New York. Donc je pars à New York, je vois Salvador Dali, et il me donne rendez-vous au Palm Court, qui était le grand moment, un truc à la mode, pour son petit fortou, ou tout petit fort vive de l'après-midi. Et il est là, une petite table, je m'installe, je commence à se présenter, et arrive Andy Warhol, qui était à la table voisine, avec une japonaise qui était le grand mannequin top modèle de l'époque. J'ai dit, mais comment je peux arriver dans ce monde-là, moi, le petit catalan, pour une annonce immobilière, c'est impossible, etc. Et donc, Salvador Dali me dit, alors que vous êtes venu me voir, pourquoi, mais maître, pour vous proposer la publicité, mais ça va alors, et la publicité, là. C'est indigne, comment vous pouvez me parler de ça, etc. Je pense que, comme étant fils du pays, comme vous, je suis de Perpignan, vous pouvez m'aider. Moi, si j'ai menti, j'ai annoncé ça à mon client, je ne vous connaissais pas, si vous me dites non, je suis ruiné, ça le fait marrer. Il me dit, écoutez, puisque c'est comme ça, Dali acceptera, mais ça dépend de la valise des dollars. Ben, je lui dis, écoutez, on va avoir les moyens, je vais me battre pour avoir l'argent qu'il faut, etc. Il dit, mais d'abord, vous devez passer l'épreuve, le test de Dali. Ben, écoutez, moi, je suis à vous. Ben, écoutez, vous voyez la japonaise qui est là. Elle a des mains très particulières parce qu'elle a appris à Bali les danses balinaises. Elle peut branler un homme à l'envers. Donc, si vous réussissez le test, je dis, mais là, on est dans le grand hôtel, le Plaza Athénée, il a disparu maintenant, Palm Court, il y a tout New York, en divarole à la table, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais j'écoutais, monsieur, bon, et je vois la japonaise descendre sous la table, je me glacifie, je la vois s'approcher, bon, je ne sais pas s'il faut me tempérer ou pas, etc. Et là, Dali stoppe le supplice et dit, c'est bien, vous avez eu le courage. C'est pas la peine de passer à la démonstration. Je ferai votre dessin. Et il revient à Paris. Il m'a dit, je vais être payé en bougreau. Bougreau, c'est un peintre pompier du siècle dernier qui voulait lancer. Trouvez-moi 3 bougreaux et j'en choisirai un. Entre-temps, il me dit, mais Dali ne peut pas peindre votre publicité de la main droite. Ce n'est pas digne de Dali. Donc je peindrai votre publicité de la main gauche et de la main droite, je ferai le portrait de la plus jolie fille de votre agence. Alors moi, je reviens à l'agence et je dis, écoutez, il y en a une qui doit se sacrifier. N'ayez aucune crainte avec Dali, il est totalement impuissant, sa femme est là, c'est ni que juste de la pose. D'ailleurs, moi, je serai à côté. Si à la moitié des choses, vous hurlez, j'arrive, un couteau entre les dents. Bon. Et elle accepte, ça durait 3 après-midi, 2 heures chaque après-midi, et chaque fois elle disait, mais est-ce que je peux voir mon portrait? Elle m'a dit, non, quand il sera fini, et quand le portrait est... Et en même temps, il peignait de la main gauche mon immeuble, et au bout de 3 jours, quand c'est fini, elle lui montre son portrait, et il n'avait peint que son sexe, parce qu'évidemment, elle était nue sur le lit. Là-dessus, il choisit un des bougreaux. J'écris l'histoire dans un de mes livres, je crois que c'est dans le livre par ma mère, et je reçois une lettre du roi du Danemark qui dit, mais il y a un misfit, parce que votre bougreau est dans notre salle à manger du royaume du Danemark depuis des années, et vous avez un faux. Donc finalement, Dali a été payé par un faux, qui est exposé maintenant comme un vrai au musée de Dali en Espagne.
Ok. Dans Fils de pub, tu dis « Je crois aux rencontres. Elles sont les carrefours des autoroutes de nos vies. Nous leur devons nos changements d'horizon, nos accidents de parcours, nos excès de vitesse et d'ivresse. Quelles ont été les rencontres qui t'ont marqué dans ta vie ?»
Il faut arrêter, parce qu'on est là pour une vie. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Coup de pub ».
Oui.
« Coup de pub », c'est le récit des 40 rencontres qui ont toutes donné lieu d'ailleurs à une campagne. Et des gens qui ont sculpté ma vie, puisque moi je suis un fils de pub, donc c'est la pub qui m'a pétri, qui m'a maîtrisé, qui m'a enfanté, qui m'a conduit, qui m'a dirigé. La rencontre la plus importante, c'était évidemment François Mitterrand. Ça. Tout le monde, les journalistes à l'époque disaient que ces gars-là a fait lire Mitterrand. Je me dis, une imbécilité. C'est Mitterrand qui massacré petit roi de la publicité. Sans lui, je ne serais rien. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dicté. C'est un annonceur qui fait sa publicité.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Le produit, en fait, c'est le produit qui compte, c'est le produit qui fait le succès d'une campagne. Ce n'est pas les campagnes qui font le succès des produits, c'est la qualité d'un produit qui fait le succès d'une campagne. Donc le produit, c'était lui. Et donc c'est lui, avec sa qualité d'homme d'État, et avec la campagne qu'il a faite, qui a gagné. Ce n'est pas moi, moi je n'étais que le scribe. Bon. Et c'est un scribe qui m'a quand même tout appris de la communication politique. J'ai eu la chance après de faire 20 campagnes politiques dans le monde, et qui m'a donné une culture du monde, parce que quand on fait une campagne politique, pendant 6 mois, on est complètement immergé dans le pays où l'on fait la campagne. Et donc, moi, j'ai eu une sorte d'apprentissage du monde à travers les pays dont je faisais les campagnes, les présidents. Et puis j'ai beaucoup de chance, puisque sur 20 campagnes, il y en a 19 qui ont été des succès. Pas grâce à moi, grâce au président, mais je faisais très attention de choisir celui qui avait une chance de gagner. Je ne m'aventurais jamais... En pays qui, je ne dis pas conquis, ça n'est jamais conquis d'avance, mais s'il y avait pas, j'étais pas sûr de la qualité du candidat, de la démocratie, des valeurs démocratiques du candidat, respectant absolument les droits de l'homme et de son engagement, je n'y allais pas.
Ok. Ta rencontre avec Jacques Prévert aussi.
Jacques Prévert, c'est ma première campagne. C'était chez Delpire. On revient en arrière. Quand j'arrive chez Delpire. Envoyé par Citroën, Delpire me dit, mais je ne vais pas donner le budget Citroën, on dit qu'il y a là-dessus, mais comme tu es pharmacien, j'étais même docteur en pharmacie, comme j'ai fait ma thèse entre-temps, comme tu es docteur en pharmacie, tu vas prendre la section médicale. Et comme premier budget, laboratoire Roussel, qui lance un médicament qui s'appelait le Glyphanan, qui est un antidouleur, qui a été supprimé depuis, mais qui a duré pendant une trentaine d'années, et qui était un médicament contre la douleur, très actif contre la douleur. Et moi, je me souvenais que Prévert, mon poète préféré, était aussi peintre de collages. Et je me souviens de ces collages extrêmement violents qui exprimaient justement la douleur humaine. Et je me disais, ce serait formidable si je pouvais l'entraîner dans cette campagne. Parce qu'à l'époque, la publicité médicale, elle était très réglementée. On avait simplement le droit d'envoyer aux médecins, une fois par mois, des brochures ou des petits cartonnages comme ça, avec... une face qui était une face obligatoirement culturelle et la quatrième de couverture qui était la publicité du médicament. Mais il fallait une œuvre pour justement équilibrer la publicité par chaque fois un choc qui soit un choc plus esthétique. Et donc c'était l'idéal d'avoir Prévert. Donc je fais la grue dans sa porte, il finit par accepter. Mais il voulait que je sois avec lui pour choisir de ses collages. Il fait les collages devant moi. C'était la semaine la plus excitante de ma vie. Je me souviens qu'un jour, parce qu'après, il préparait le repas. Ils ont déjeuné ensemble. Et puis je l'ai quitté. Il partait faire la sieste vers 2h30. Donc je l'ai quitté à ce moment-là. Et donc on est à midi. Et il dit, c'est Guéla. Oh là, allez me chercher un petit Robert. Et moi, je descends. Je vais chez le libraire. Je dis, est-ce que vous auriez un petit Robert ? Le libraire me voit un petit Robert, je remonte, je dis mais voilà maître, il dit mais c'est là foutez de ma gueule, c'est un camembert petit Robert qu'il fallait me donner à table, on va pas manger un dictionnaire, j'ai pas besoin du petit Robert pour écrire le français. Non. Voilà, l'homme était fabuleux.
Comment s'est passé, donc là on refait un saut dans le temps au démarrage de RSCG, comment s'est passée la rencontre avec tes différents associés ?
Avec
tes différents associés. Donc, dans un premier temps, on a vu la rencontre avec Bernard Roux. Et puis, dans un second temps, il y a Alain Cézac qui est arrivé.
Oui, la rencontre avec Bernard Roux était toute simple, puisqu'on s'est retrouvé à Paris, dans une espèce de loft, qui était l'agence débutante des frères Demnard. Lui connaissait les Demnard, qui étaient, je ne sais plus si c'était des copains. Lui était le directeur d'une boîte de voilage. À Tarare, à côté de Lyon. Il en avait marre des voilages, donc il était monté à Paris pour changer de métier. Mais il n'était pas du tout disposé à la publicité. Mais comme c'était un bon vendeur, les frères Demnard avaient dit tu seras pour démarrer. C'est une journée par semaine, le directeur commercial. Et moi, je suis arrivé là par hasard, je ne sais plus comment d'ailleurs, je me suis retrouvé là-dedans. J'étais le créatif de service. Alors après, quand au bout de 2 ou 3 ans, quand l'agence a commencé à être connue, à exister, on a dit, mais il faut quand même maintenant qu'on devienne professionnel. Donc il faut qu'on ait un spécialiste du marketing. Et le marketing, à l'époque, c'était incarné par Procter & Gamble, qui est le premier annonceur du monde, le grand lessivier, et qui avait des agences de publicité dédiées à Procter & Gamble, qui fonctionnaient selon les règles de Procter & Gamble. Et donc c'est là qu'on est allé chercher notre troisième associé, Alain Kézac. D'ailleurs, je l'ai vu à déjeuner aujourd'hui. On a déjeuné ensemble aujourd'hui. Et donc c'est lui qui a monté toute la partie client de l'agence. Donc Bernard était le manager, j'étais le créatif, lui était la partie new business, le mieux, on le faisait tous ensemble, mais était la partie service à la clientèle et marketing. Et puis ça a duré 6 ou 7 ans, je ne sais pas, et puis au bout de 7 ans, on a dit maintenant il faut qu'on devienne international, donc il faut qu'on prenne un spécialiste de l'international, et on est allé repuser dans la même agence où était Alain Kézac, qui avait un de ses copains qui s'appelait Jean-Michel Goudard, qui était justement un spécialiste des campagnes internationales et qui est venu nous retrouver pour finir l'agence. Et on a été associés pendant 25 ouais. ans.
J'aimerais juste parler d'une campagne qui a marqué l'histoire de RSCG, la campagne Les Produits Libres. Donc c'était les marques de distributeurs, le lancement des marques de distributeurs. Et
Oui, Carrefour arrivait à un moment où, après le lancement de Carrefour, c'est Carrefour qui a inventé les hyper dans le France et dans le monde. Bon. Donc il y avait une aura extraordinaire. Et puis c'était des deux familles associées qui dirigeaient à tour de rôle. Et la première famille a passé la main à une deuxième famille qui s'appelait les Déforés, qui était plus moderne que les créateurs, etc. Les ventes commençaient à baisser. Et ils ont voulu trouver une idée pour relancer Carrefour et la distribution. Et donc, ils sont allés voir les agences. Ils sont allés voir 3 ou 4 agences. Et je me souviendrai toujours que on les reçoit à 5h de l'après-midi. J'étais avec Isaac et 2 ou 3 autres personnes de l'agence. Je ne sais plus si Bernard était là ou pas. On ne savait pas parce qu'on avait reçu un coup de fil en disant « Il s'agit d'un très gros budget, mais on ne peut pas vous dire pour qui et on ne peut pas vous dire pourquoi. Est-ce que vous êtes preneur ?»« Oui. » Bon. Et donc là, on essaie de tirer les vers du nez. Ils disent « Écoutez, on ne peut pas vous dire quel produit c'est. On ne peut pas vous dire quelle marque c'est. On voudrait simplement que vous nous parliez de la publicité. » Et puis on essaie de tirer les vers du nez, etc. Et moi, je trouve que la présentation est nulle et que ça ne marche pas, etc. Et je dis à Étienne Thiel, qui était là, qui était le directeur du marketing de Carrefour, écoutez, moi, je veux parler ça à la salle avec vous. J'ai dit, écoutez, maintenant, la citronne autour du pot, c'est quoi votre truc hein? Je sens que vous êtes intéressant, je sens que vous avez beaucoup d'argent. Et il me dit, voilà, on veut lancer un produit qui n'a pas de marque. Je rentre dedans. Et je lui fais une déclaration d'amour au produit sans marque. Ce qui était vrai. Moi, j'ai dit, j'ai toujours milité pour qu'il y ait un jour des produits blancs, pour qu'il y ait un jour des produits qui soient le contraire de ce que l'on vend d'habitude. Parce que moi, je suis un marchand de marque. Donc, je veux montrer qu'on peut créer la marque sans marque et que le fait qu'une marque sans marque devienne une marque prouve que la publicité existe. Et c'est ce discours qui l'a séduit. Qui s'est retourné contre nous après, parce que quand on a fait la campagne, toutes les agences de publicité, tous les annonceurs ont dit « mais c'est une façon de tuer la marque ». Pas du tout. Et lui-même est allé défendre ça dans tous les médias, etc. C'est une campagne qui a été déclarée la meilleure campagne du dernier quart de siècle, du XXe siècle. Bon, et lui est allé défendre dans tous les médias, etc. Et moi aussi. Notre idée a fini par triompher, qui est de dire « mais oui, la publicité est plus forte que toutes, puisqu'elle a réussi à vendre la farine, farine ». Le sucre, sucre, l'huile, l'huile, parce que c'était des cartons blancs où il y avait farine, farine. Et il n'y avait aucun nom de marque, etc., aucun nom de distributeur. Bon. Et c'était la campagne, on fait croire qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il est plus cher. On fait un produit, on fait croire qu'il est meilleur simplement parce qu'il a un bon conditionnement, etc., qui a été une véritable révolution avec la mouette de la liberté. Et moi, j'avais baptisé les produits libres parce que, justement, ils étaient dégagés de toute condition marketing, de toute condition publicitaire. Mais en fait, ils réinventaient la pub.
Okay.
Ils donnaient des ailes à la pub.
Très bien. Dernière question sur ton parcours avant d'attaquer ton livre « Le diable s'habille en GAFA ». Donc, RSCG, ça a été racheté par Havas. Comment ça s'est passé le rachat de RSCG par Havas?
Écoute, nous, on a été tués par les banquiers. Alors, les banquiers sont des assassins. Ils assassinent les petits pour nourrir les gros. Parce que quand on a commencé à devenir vraiment une agence importante, on était pratiquement la deuxième agence française. Dans un premier temps, on a racheté Delphi. Hein. C'était le retour, d'ailleurs, au départ de Delpire, parce que Delpire, un jour j'ai eu Delpire au téléphone, il m'a dit je cherchais un acheteur, essaye de me trouver un acheteur, toi qui es bien dans le milieu, etc. Et j'ai raccroché, j'ai rappelé Bernard, j'ai dit mais pourquoi ce serait pas nous? Et donc on l'a rappelé, on lui dit mais nous on est acheteur. Il m'a dit mais écoutez je vais voir, et il avait trois ou quatre propositions. Et nous on n'était pas la meilleure proposition au niveau de l'argent, parce que on hypothéquait tout ce qu'on avait, on n'avait pas de quoi payer. Mais il a dit, mais comme tu ne m'as pas trahi, parce qu'effectivement, il m'avait dit, mais tu sais, un jour, tu t'en vas pour me piquer le budget Citroën. Citroën est venu me trouver et m'a dit, on a un modèle à lancer, est-ce que vous accepteriez de lancer le modèle? Et j'ai dit, tout à fait. Je suis allé les voir pour prendre le brief. Et quand j'ai eu le brief, je suis allé voir Delpire et je lui ai dit, écoute, voilà le brief de Citroën. Je sais exactement ce qu'ils veulent. Moi, je vais t'aider à faire la campagne, mais il n'est pas question que je touche ni un sou, ni que je prenne le budget. Et c'est pour ça qu'il nous a donné, qu'il nous a vendu son agence. C'est comme ça qu'on est devenu les numéros 2. Mais quand il a fallu ouvrir des agences internationales, parce que Citroën nous a dit, nous, on vous donne le budget dans le monde, à condition que vous ayez des agences dans le monde. Donc on a dû créer 20 agences en 2 ans, dans le monde entier. C'était des sommes énormes. On est allé voir les banquiers, je crois que c'était la BNP qui nous a dit, écoutez, d'accord, vous marchez bien, donc on vous ouvre les vannes. Puis est arrivée la crise de 90 ou 92, je ne sais plus. Et là, ils ont fermé le robinet des vannes et donc on est mort dans l'année. Moi, je suis allé voir François Mitterrand et je lui ai dit, monsieur le président, il faut... Attends, c'était quand ça? Parce que c'était pas les années 92, c'était... Non, c'était pas les années 92, c'était les années de Mitterrand, donc ça devait être 88, quelque chose comme ça. Je ne sais plus très bien ça. Bon. Mitterrand m'a dit, mais on va privatiser Havas. Le futur patron de Havas, c'est André Rousselet, qui était son secrétaire général. Vous devrez aller voir André Rousselet. Donc, je suis allé voir André Rousselet, que je connaissais, et avec qui je sympathisais, qui m'a dit, écoute, vous avez les idées, nous, on a l'argent. Pourquoi on ne se marierait pas ensemble? On vous rachète. Là-dessus, Roux n'a pas voulu se laisser racheter. Il voulait être président. J'ai dit, on ne peut pas être président de quelqu'un qui le rachète. Hein. Mais ça ne l'empêchera pas de continuer à faire notre boulot dans l'agence. Et donc, on est resté à trois. Et puis, à un moment donné, Goudard, qui n'aimait pas beaucoup Alain Pouzia, qui n'était d'ailleurs pas très recommandable, qui était le président, qui était évidemment côté Havas, Goudard a eu la proposition de la plus belle agence du monde, Bibidéo, une agence américaine très, très créative, de devenir le patron international de Bibidéo, basé à New York. Donc, il nous a quittés pour ça. Et puis, après, est arrivé notre deuxième chute, où on a acheté une agence américaine, 2 milliards de dollars qui en valait un, et il est resté 500 millions tellement elle est mal gérée au bout de 2 ans. Donc on avait une dette d'un milliard et demi qu'on n'arrivait pas à payer, d'où le rapprochement avec Vincent Bolloré, qui a créé Havas et qui a fait mon bonheur, puisque moi j'ai changé de marque, j'ai abandonné ma marque d'Euro RSCG pour Havas, pour le S d'Havas, parce que Charles Havas est l'inventeur de la publicité. Tu es ici dans la plus vieille agence du monde, avec en face de toi le plus jeune patron, puisque Yannick Bolloré a pris l'agence quand il avait 33 ans et qu'il en a aujourd'hui 38.
Très bien. Deuxième partie, donc sur ton dernier bouquin, le Diable s'habille en GAFA.
Oui.
Donc le Diable s'habille en GAFA, c'est un livre coup de gueule. Je l'ai vu un peu comme.
Il est coup de gueule. Il est cri d'alarme. Il est cri du cœur et il est cri d'espoir.
Ouais.
C'est un coup de gueule, mais c'est un coup de gueule composé de 3 cris.
Je l'ai vu un peu comme le livre Indignez-vous de Stéphane Hessel.
Oui, mais c'est d'ailleurs ça. C'est résistons. Entrons en résistance.
Et donc toi, tu n'es pas contre les GAFA, tu es pour une réglementation de ces géants du web. C'est quoi tes conseils pour lutter contre les GAFA? Et est-ce que c'est possible de créer une réglementation mondiale?
Alors pourquoi je ne suis pas contre les GAFA? Parce que je suis pour les GAFA bon Dieu, contre les GAFA diable. Un exemple très simple d'intelligence artificielle. Il y a une équipe américaine de chercheurs qui, pendant 14 ans, a brassé les données dans tous les sens, est arrivée finalement à 100 000 données qu'ils ont mis en algorithme, qui fait qu'aujourd'hui, sur une simple photo d'un petit bouton que tu as là, sur le doigt, on peut savoir si c'est un mélanome ou pas, si tu vas avoir un cancer ou pas. Comment ne pas aimer cette intelligence artificielle-là ? Bon. Deuxième cas, ce n'est pas la peine d'aller aux États-Unis. En France, il y a une start-up qui, exactement sur le même fonctionnement, en amassant des données, en les croisant, fait que on peut savoir si, en exposant simplement ton œil à 2 minutes d'exposition d'une photo de ton œil, on peut savoir si tu es atteint de rétinopathie ou pas. La rétinopathie, c'est une maladie qui peut arriver à tout le monde. Il y a 430 millions de gens susceptibles d'avoir cette maladie dans le monde. Tu deviens aveugle en quelques temps. Hein. Comment ne pas aimer cette intelligence artificielle-là ? Et puis, avec le même système, le même principe, avec les mêmes données, il y a des chercheurs de Harvard qui sont arrivés à ce qu'ils impriment une photo, et sur cette photo, on sait si tu es homosexuel ou pas. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je veux du premier monde, celui qui est pour le bonheur du monde, celui qui est pour sauver les gens et faire que le monde soit en bonne santé. Je ne veux pas d'un monde qui peut aller jusqu'à la pire des choses du monde, qui est l'ostracisme.
OK.
Bon, donc, à partir de là... on ne peut pas se passer d'Apple, on ne peut pas se passer de Google, on ne peut pas se passer de Facebook, on ne peut pas se passer d'Amazon. Donc ce serait ridicule d'ailleurs. Mon livre est vendu chez Amazon. Donc je ne vois pas pourquoi je me plaindrais d'Amazon. Bon. Mais je me plains de l'outrecuidance hein, de ces quatre garçons dans le vent qui ont créé les Google, qui sont en train de créer un état numérique qui sera le premier état du monde si on n'y met pas garde. Aujourd'hui, les Google, c'est le PIB de la France. Dans 10 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, dans 30 ans, c'est le PIB du monde. Comment peut-on accepter qu'une puissance économique la plus riche du monde se mette à gouverner le monde et qu'elle soit américaine ? Si encore elle était multinationale, on pourrait comprendre. C'est absolument impossible. Mais aujourd'hui, Apple, c'est 1 000 milliards de dollars. Amazon, c'est 1 000 milliards de dollars. Donc c'est le début... De cette espèce de concupiscence que rien ne peut arrêter parce que comment ils progressent ? Ils progressent avec, ils ont tellement d'argent que nous, les publicitaires, d'ailleurs, nous leur avons apporté, qui est l'argent de nos clients, jusqu'à ce qu'ils nous invincent d'ailleurs complètement du système, donc qu'ils prennent notre marché. Non. Comment on peut accepter que ce soit fait par des gens qui ne paient pas leurs impôts, qui ne respectent pas la morale, qui ont volé leur matière première, c'est-à-dire nos données, ce qu'on a de plus intime? Ça va même plus loin que ça, parce qu'en croisant nos propres données, ils en savent plus sur nous que nous-mêmes, dans notre subconscient. C'est même plus loin que ça. Il y a 7 ans, une poupée Barbie a été mise sur le marché avec un capteur qui a fait que dès que nos gosses descendaient du berceau, leur premier mot, leur premier pas était déjà capté pour les mettre dans des clouds où demain on les utilisera contre eux pour leur vendre les produits qui soi-disant leur correspondront. C'est absolument inadmissible. Bon. Donc il y a vol, il y a viol, et il y a mainmise de l'économie du monde empaquetée par l'Amérique, par la Silicon Valley. Alors comment lutter contre ça ? Ben, moi je demande la réglementation. Il y a 6000 ans, on a inventé la roue dans les contreforts de l'Europe de l'Est. Bon. Mais le jour où on a inventé la roue, on a inventé les accidents de la route. Mais qu'ont fait les gouvernements ? Ils ont inventé la prévention routière. Et aujourd'hui, quand tu rentres dans une voiture, tu mets ta ceinture. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de morts sur la route. Donc, moi, je demande que, comme il y a une prévention routière, il y ait une prévention numérique. C'est-à-dire que l'on mette en garde les GAFA contre les débordements. L'Europe a commencé à le faire. Et l'Europe a créé une réglementation qui a été signée par tous les pays européens, bravo l'Europe, acceptée d'ailleurs dans le monde entier, mais les autres pays se sont bien gardés de la signer, en particulier l'Amérique, parce que les GAFA, qui étaient en Irlande pour ne pas payer d'impôts, dès que le règlement européen est sorti, sont tout de suite repartis à Los Angeles, et la Chine a ses propres GAFA, donc ne veut pas signer la chose. La Corée, à son propre GAFA, ne veut pas signer la réglementation. Et je dis, on est en train de se mobiliser contre le climat, et on a raison, parce que c'est la planète qui est en question, mais la planète est en question dans 50 ans, dans 100 ans. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui est en question avec les Google. C'est l'humanité, c'est la démocratie, parce qu'on va parler du Facebook après, c'est encore pire que tout. Bon, c'est des Facebook, des fake news. On va parler des fake news tout à l'heure, pardon pour l'amalgame. On va parler des fake news tout à l'heure, qui est plus grave parce que ça met directement la démocratie en cause. On ne peut pas donc accepter cette espèce de colcause qui est en train de se constituer. Le seul qui peut appuyer sur le bouton, c'est Donald Trump. Je suis persuadé qu'il ne le fera pas, parce qu'il y a une loi en Amérique, qui est la loi antitrust, qui date de 1850. Car à l'époque, la matière première du monde, c'était le pétrole. Aujourd'hui, ce sont les données. Rockefeller avait amassé pratiquement 80% des puits de pétrole de l'Amérique, et donc il régnait sur le monde avec son pétrole. Et la loi antitrust l'a obligé à couper en quatre son empire, pour rétablir la concurrence, pour que d'autres puissent essaimer sur le marché. Et c'est comme ça que s'est construit l'Amérique et la fortune de l'Amérique. Et Rockefeller est toujours milliardaire, et ses enfants milliardaires, et ses petits-enfants milliardaires. Ça n'a absolument pas gêné sa trajectoire. C'est ce qu'il faut qu'il se passe pour les GAFA. Deuxièmement, il faut que on crée, de même qu'on le fait pour la nature, pour la protection de la nature, que l'on fait un sommet mondial de la protection de la nature, la COP, il faut que l'on crée une COP numérique où les pays du monde se mettent autour d'une table pour essayer de limiter les méfaits, garder les bienfaits et se limiter les méfaits des GAFA. Et le premier des méfaits, c'est les fake news. Parce qu'ils regardent bien les fake news. Trump a été élu sur les fake news, donc il n'est pas élu. Le Brexit est né de fake news. Donc l'Angleterre n'avait pas à quitter l'Europe, et le nouveau président d'Amérique du Sud était dit sur du fake news, c'est-à-dire que la démocratie est en question, c'est pas moi qui le dis, c'est d'abord Bill Clinton, président des États-Unis, qui l'a écrit noir sur blanc, et Barack Obama, un de ses successeurs, lorsqu'il est arrivé, qui est venu en France il y a un an, faire sa première conférence hors des États-Unis. Il a été interrogé sur les GAFA. Il est le premier à dire que les GAFA et les fake news, ça attaque directement la démocratie, parce que il n'y a pas de démocratie sans vérité, il n'y a pas d'élection sans vérité. Et deuxièmement, ça va même plus loin, parce que les fake news, c'est la création de pensée unique, de silos de pensée unique. Tu es conservateur, on ne t'envoie que des questions de conservateurs. Tu es démocrate, on ne t'envoie que des questions de démocrate. Et ce sont des silos de haine qui commencent à se monter les uns contre les autres. Ça tue l'altérité et ça tue la communication. Or, la formidable invention des GAFA et la formidable invention du net, c'est de faire que tous les hommes pouvaient parler avec tous les hommes. C'est des outils de partage, des outils d'amour, des outils de communication, pas des outils de haine et des outils de destruction de la démocratie. Voilà le résumé du livre.
Totalement. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont ultra connectées. Tu le vois comment, le futur du numérique et du monde en général? Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu es pessimiste?
Moi, je suis optimiste. Je t'ai dit que c'était un cri d'alarme, mais c'est un cri du cœur, mais c'est aussi un cri d'espoir. Je suis pessimiste d'abord parce que les hommes ont toujours triomphé des machines. C'est les machines qui ont libéré l'esclavage. Quand les Sémariens sont aperçus que les machines, ça coûtait moins cher que les esclaves, ils ont redonné leur liberté aux esclaves. Bon, c'était peut-être pas la meilleure raison, mais enfin, au moins, ils l'ont fait. Bon. Et bien, aujourd'hui, on voudrait que les machines remettent les hommes en esclavage. Ils ne se laisseront pas faire. Ils ont toujours réagi. Même la guerre de 100 ans a duré 100 ans, et en plus, elle a établi la paix. On a eu un 20e siècle épouvantable, avec deux guerres mondiales. Mon grand-père a fait la première guerre, il a failli en mourir. Mon père a fait la deuxième guerre, il a failli finir fusillé par la Gestapo. Et moi, j'ai fait 28 mois de service militaire d'une guerre stupide qui est la guerre Algérie. Bon, tout ce monde est derrière nous. Donc, l'homme, comme toujours, reprendra la main. Deuxièmement, il faut que... pousse les États à se mobiliser, il n'y a qu'eux qui peuvent arriver à normaliser les choses, mais c'est à nous aussi, et d'abord à nous les parents, de limiter la casse de nos enfants. Moi, j'ai 5 enfants de la même femme. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. Donc, ils sont des âges différents. J'ai 2 petites jumelles qui vont avoir 20 ans. Donc, il y a un repas de famille à la maison. Quand il y a un repas de famille, je commence par mettre les téléphones au frigidaire, voilà, au réfrigérateur. Et on n'a pas le droit d'y toucher. Sinon, on quitte la salle. Et dans mon bureau, il y a une poubelle qui est là. Si quelqu'un sort son téléphone quand il est dans mon bureau, le téléphone va dans la poubelle. Voilà. Ou sinon, il quitte le bureau. Voilà. Donc, il faut commencer à faire que le téléphone doit respecter la vie. Première, la vie de famille, parce que sinon, aujourd'hui, on dîne avec des portables. On dîne avec Madame Apple ou Monsieur Huawei. C'est gentil, mais j'ai envie plutôt de parler à mes jumelles. Bon. Deuxièmement, il faut faire très attention sur l'addiction. Elle est terrible en Chine, parce que la Chine, l'outil de la liberté en Chine, c'est le téléphone. On voit bien que c'est les Chinois qui sont en train de doubler Apple, qui sera le premier marchand du monde. Bon. Et donc tout le monde a son Apple et joue aux jeux vidéo comme des fous. Et tu as des gosses qui errent dans les rues des villes, qui finissent par se perdre, qui ne mangent plus, qui ne boivent plus, qui sont complètement pris par leur addiction. Il y en a qui meurent, il y a eu plusieurs cas de mort, et les Chinois ont créé des écoles de désintoxication pour que les jeunes sachent se modérer, parce que si tu regardes bien, ça affecte les études, ça affecte la vie publique, ça affecte les amours, parce qu'aujourd'hui les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux à se dénoncer entre eux, etc. Enfin, tous les drames, tous les mauvais côtés des GAFA se résument dans les réseaux sociaux. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre, essayer de mettre de l'ordre. Et puis, soyons français. La France a inventé un moteur de recherche qui s'appelle Quant, qui est génial. Il est plus génial que Google, parce qu'il est arrivé après, il est beaucoup mieux dessiné, et en plus, il ouvre au partage, alors que Google referme tout sur lui-même. Il est français, et il n'a pas d'utilisation des données. Parce que moi, j'avais vu le patron Ronzan, quand il a créé son truc, j'avais dit, méfie-toi, c'est les données qui vont tuer, Google n'existait pas. Les GAFA n'existent pas, c'est les données qui vont tuer Google. Donc toi, veille à ce que les données soient protégées. Donc on a tout intérêt, et d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même a demandé que les administrations françaises se mettent sur Quant. Nous ici, on utilise Quant. Donc pourquoi ne pas utiliser français? Troisièmement, il y a un Google américain, il y a un Google chinois, il y a un Google coréen. Pourquoi n'y a-t-il pas de Google européen? Qu'est-ce qu'on fout? Alors que nous avons tout inventé, c'est la France qui a tout inventé de la communication. On a inventé la publicité, Charles Abbas, on a inventé la photo, le Fairnets, on a inventé le cinéma, les Frères Lumière. Que serait Google sans photo, sans cinéma, sans publicité? Il n'existerait pas. On a inventé la carte à puce, que serait Google sans carte à puce? On a inventé la télévision en couleur, que serait Google s'il n'était pas en couleur? On a participé à l'invention du net au CERN, oui, de l'autre côté en Suisse. Et pourquoi tout d'un coup on s'arrête? Pourquoi on n'ose plus créer? Pourquoi on n'ose plus montrer notre dehors? Parce qu'on s'est laissé, finalement, enchelousser par la siliconie. Parce qu'on est siliconisé. Et à force de nous numériser, on est devenu des numéros, on ne réagit plus, on subit simplement, et on donne nos numéros de carte toute la journée à tout le monde et à n'importe qui. Il faut lutter contre ça.
Très bien. J'ai juste une dernière question. Donc merci Jacques pour cet échange déjà. J'ai une dernière question. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains podcasts?
Dans quelle catégorie?
N'importe, peu importe.
Va voir Tapie.
C'est tout?
Ah ben moi, je peux t'en proposer 22, je ne sais pas.
Si tu avais 3 noms.
3 noms. Il faut que ce soit des entrepreneurs.
Oui, enfin, hein? C'est mieux. Entreprenant aussi.
Moi, j'irai voir Carla Bruni. C'est pas un entrepreneur, mais c'est une sorte de fabricant de spectacle. Elle est le spectacle, donc elle s'auto-fabrique. C'est un extraordinaire trajet de vie, parce qu'elle a été mannequin, elle était chanteuse, elle est première dame, et maintenant elle est une vedette internationale, elle tourne dans tous les pays du monde, etc. Et ça, elle l'a appris à la force du poignet. Ses premiers récitals, c'était quand même... un porte-manteau qui grattait une guitare sur un escabeau. Et maintenant, c'est devenu une liane. chargé de sensualité qui va d'un bout à l'autre de la salle, formé par les Américains. C'est un spectacle qui est extraordinaire à voir. Elle a une toute petite voix, elle a complètement changé de voix, c'est devenue une vraie chanteuse. Elle a déjà une dizaine de tubes derrière elle, elle écrit des chansons sans arrêt. C'est une performance d'auto-entrepreneur artistique extraordinaire. Pourquoi j'irai voir Tapie ? Parce qu'il a fait tous les métiers. Il sait tout sur tout, il a eu toutes les vies. Il est dans un moment de sa vie où il est très touché, très affecté par la maladie. Il ne sait toujours pas d'ailleurs s'il en est vraiment sorti ou pas, donc il est quand même entre deux vies. Hein, la vie éternelle et la vie tout court. Il préférait la vie et la vie éternelle, même s'il est très croyant. Et parce que dans sa vie, il a tout créé et tout perdu. Donc c'est toujours de ses échecs que l'on apprend le plus. Je ne te dirais pas d'aller voir Yannick Bolloré, parce que on penserait que je fais de la lèche, mais j'irai voir un jeune entrepreneur. Celui qui m'intéresse le plus, c'est Monsieur Free.
Xavier Niel.
Ouais. Parce que c'est un autodidacte, arrivé de l'immobilier, qui a fait fortune par le goût du risque maîtrisé, qui a révolutionné la téléphonie, qui a créé ce qu'il y a de plus beau au monde pour moi. C'est le point génial, le point F, où il y a 1000 startups.
Et nous, on
est la seule agence autorisée, la seule agence qui est là-bas. On a un demi-étage, un premier étage, enfin un quart d'étage, parce qu'il y a 4 étages comme ça. Ouais. On a un quart d'étage. On a 35 personnes qui travaillent là-bas pour l'ensemble des startups qui sont là. Et c'est une pépinière comme on n'a jamais vu. Alors, si tu arrives à faire le triplé, ça sera pas mal.
Ok, bah, je vais essayer. Voilà. Merci beaucoup, Jacques, pour cet échange.
Alors, il y a une seule chose que je ne t'ai pas dit, c'est que...
Dis-moi.
Mon livre, ce n'est pas ça. La phrase la plus importante du livre, c'est de dire... Tout le monde dit que le nouveau média, c'est la data. C'est big data. C'est l'intelligence artificielle. Non. Le nouveau média, c'est l'idée. Parce qu'une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Tu appuies sur la gâchette, rien ne sort. Le data, c'est le revolver. Ça ne sert à rien. Ça pèse, ça se met dans une armoire, derrière une glace, et ça se regarde. La balle, c'est elle qui tue. C'est elle qui apporte le message. D'abord, il faut la porter comme il faut porter. Donc, plus que jamais, c'est la créativité qui sauvera le monde. En France, on est le pays de la créativité. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Qu'est-ce qu'on attend pour devenir les maîtres du monde de l'idée? Si on regarde la publicité... Tu vois bien qu'une agence comme Havas, elle est entièrement tournée sur la créativité. Mmh. Tu vois des lions
partout. Hein,
plusieurs centaines de lions. Les premiers que j'ai gagnés, ils sont là-bas. Tous les premiers, je les ai gagnés tout seul. Et maintenant, c'est l'ensemble de tous les gens du monde qui les gagnent. Le président lui-même a des lions dans son bureau. Et si tu vas un peu plus loin, tu verras le directeur financier, il a des lions dans son bureau. On est la seule agence du monde où les lions partent de notre salle du conseil pour aller jusqu'au directeur financier. En continuant par le bureau, la salle d'attente des clients. Voilà.
Ok. Bah, merci Jacques. Puis à bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.